Nous voici donc au troisième jour de notre séminaire. Et à la troisième soirée de notre rassemblement ici à l'église. Car le séminaire, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes rassemblés. Mais nous avions la semaine dernière prié pour que le Seigneur consacre toute la semaine. Nous devons nous préparer avant même de venir dans ces lieux. Et lorsque nous venons dans ces lieux et que nous recevons quelque chose, eh bien de retour dans nos maisons, eh bien nous entrons dans la présence du Seigneur pour que par son esprit, toutes ces vérités que nous aurons reçues, eh bien soient imprimées en lettres de feu dans nos cœurs, que toutes les vérités reçues, eh bien arrivent à faire corps, un seul corps, avec notre âme, avec notre esprit. Alors Emmanuel est bien présent. Et nous lui exprimons toute notre gratitude pour sa présence au milieu de nous. N'oublions jamais, frères et sœurs, que si nous sommes là, si nous pouvons ouvrir le Saint-Livre et y puiser sa pensée en toute liberté, si nous pouvons chanter pour lui, si nous pouvons bouger pour lui, si nous pouvons nous trémousser pour lui, c'est tout simplement par grâce. Il y a beaucoup qui auraient aimé, mes amis, expérimenter ce que nous sommes en train d'expérimenter. Il y a beaucoup à travers le monde qui auraient aimé se retrouver en toute liberté dans un contexte comme celui-ci pour louer, adorer librement leur Sauveur, mais à cause d'un contexte souvent difficile, parce que vivant dans des pays intégristes, dans des pays rongés par l'obscurantisme et par toutes sortes de philosophies démoniaques, ces gens ne peuvent pas se rassembler comme c'est notre cas. C'est pourquoi ne soyons jamais ingrats envers le Seigneur. Voyez-vous, que l'habitude ne prenne pas le pas, surtout au risque de nous faire oublier que tout n'est que grâce. Alléluia. Nous allons nous préparer à l'enseignement de sa parole pour ce soir sur ce thème ô combien vital, combien important, que la restauration de l'autel, autel qui est donc une réalité qui est appelée à occuper la première place dans notre vie, comme nous l'avons vu depuis la première soirée, eh bien, tout avec Dieu se passe autour de l'autel. Alléluia. Pas de vie véritable si nous n'apprenons pas, mes amis, à monter sur l'autel et à nous laisser mourir à nous-mêmes, mourir à nos ambitions égoïstes, mourir à notre orgueil, à notre morgue. Si nous ne mourrons pas nous-mêmes, il nous sera, frères et sœurs, difficile d'expérimenter cette vie pour laquelle le Seigneur est venu sur cette terre. Il nous a laissé en effet une promesse selon laquelle qu'il est venu afin que ses brebis soient dans l'abondance par rapport à cette vie, oui ou non. Eh bien, nous ne pouvons pas, en tant que brebis du Seigneur, expérimenter la plénitude de cette vie, expérimenter cette vie de manière surabondante, si nous n'apprenons pas en tant que brebis à nous placer nous-mêmes sur l'autel, afin que lui de son feu nous embrase. Alléluia. C'est seulement de cette manière que nous pourrions, ou que nous commencerions à assumer, à vivre pleinement notre raison d'être ici-bas. Il nous a sauvés pour le servir, oui ou non? Alléluia. Il nous a libérés des différentes chaînes pour que nous nous mettions à le suivre, n'ayant autre chemin que lui. Comme je l'ai dit hier, comme l'acolyte suit le prêtre dans un culte catholique romain, l'acolyte n'a pas d'autre choix que de suivre celui qui est devant lui. Il en est de même pour nous. En suivant le Seigneur de cette manière, croyez-moi, le feu descendra. Et quand le feu descend et qu'il embrase l'église de Jésus, eh bien le monde alors se met à trembler. Alors ça provoque un séisme. Un séisme est différent de tous les séismes que le monde connaît, puisque les séismes naturels, provoqués par ceci ou par cela, dans la plupart des cas, entraînent des destructions et même la vie de gens. Mais le séisme de Dieu, c'est celui qui est provoqué par l'ouverture de son ciel, et lorsque ce séisme a lieu, les gens sont sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons apprendre à bâtir, à restaurer, à rétablir, frères et sœurs, l'autel. C'est là que tout se passe. Gloire au Seigneur. C'est à l'autel et à l'autel seul que nous pouvons expérimenter toutes ces grâces après lesquelles nous aspirons tous. Amen. Alléluia. Eh bien, inclinons simplement dans nos têtes dans la prière. Et je voudrais que chacun demande simplement à Dieu quelque chose. Seigneur, je voudrais ce soir que tu m'aides à réaliser le bien fondé, l'importance, l'urgence, la nécessité de rebâtir, de restaurer ton autel dans ma vie. Et pour cela, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à détruire tous ces petits autels qui jusque-là m'ont distrait. Tous ces petits autels, Seigneur, que j'ai bâtis peut-être inconsciemment. Ces petits autels qui ont fini par monopoliser toute mon attention. Ces petits autels qui sont arrivés ou qui sont là. Et avec le temps, ont fini par me distraire, par m'amener à courir après les choses du monde plutôt qu'après toi. Seigneur, aide-moi à les à discerner. Aide-moi à débusquer ces faux autels. Aide-moi, Seigneur, non seulement à les réaliser, à les voir dans tel ou tel autre domaine de ma vie, mais Seigneur, que tu m'aides à les détruire, afin que désormais, ma vie n'ait pour objectif premier, ma vie n'ait de raison d'être que de bâtir ton autel et ton autel seul. Nous sommes, Seigneur, devant toi, au troisième jour de notre séminaire, à la troisième soirée de notre enseignement dans le cadre, Seigneur, de cette nécessité, de cette urgence, de rebâtir l'autel, de le dresser, de le restaurer. Car comme nous l'avons vu depuis, Seigneur, la première soirée, l'autel occupe une place importante dans tes relations, Seigneur, avec nous. L'autel, quelque chose de fondamental et de vital, quelque chose d'essentiel. Car, ô Dieu, tu nous appelles à une vie de plus en plus intime avec toi, à une vie, Seigneur, de grande et de profonde proximité avec toi. Et ceci ne pourra jamais devenir une réalité pour nous tant que nous n'aurons pas appris non seulement à rebâtir l'autel, à le restaurer, à donner à l'autel toute la place qu'il est appelé à occuper dans nos vies, mais aussi à monter nous-mêmes sur l'autel pour mourir, afin que toi tu vives. Bénis et sanctifie cette parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, nous allons donc continuer avec notre thème, la restauration de l'autel. Je voudrais revenir un tout petit peu sur quelques vérités que nous avons déjà examinées pendant les deux précédents jours, les deux précédentes soirées, pour qu'une fois de plus nous réalisions l'importance d'un thème comme celui-là. Dans un monde où nous sommes de plus en plus distraits par d'autres choses, même légitimes, mais qui, au regard de l'autel, ne valent absolument rien. Car c'est l'autel qui va tout déterminer. C'est à l'autel que tout se joue. C'est à l'autel et à l'autel seul, comme nous l'avons déjà vu et comme nous allons le voir encore ce soir, et comme nous le verrons demain, c'est à l'autel seul, mes amis, que le Dieu de la Bible se manifeste. Gloire à Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est un monde sous l'emprise de Satan. La Bible est claire. Le monde entier, tous ces systèmes politico-religieux, toutes nos sociétés où qu'elles soient, eh bien, sont sous l'emprise des puissances démoniaques. Il y a des ténèbres qui planent et qui font ombre ou qui provoquent une ombre qui entraîne la mort sur tout le plan. Lorsque le Seigneur regarde au monde, il voit un vaste cimetière où il n'y a qu'ossements, où il n'y a qu'odeur mauvaise. Et dans ces ossements, lui qui est amour, il aimerait y envoyer la vie. Alléluia. Et cette vie ne peut venir que par et au travers de son Église, de ceux et de celles en qui il habite. Alléluia. Ceux-là, mes amis, eh bien, sont appelés à être des moyens d'expression de Dieu ici-bas. Ceux-là sont appelés à être des outils entre les mains du Seigneur pour la délivrance de ce monde. La délivrance par rapport à l'aveuglement spirituel, à cause justement de ces épaisses morales, de ces épaisses ténèbres morales et spirituelles, eh bien, le Dieu de ce siècle, le diable, eh bien, aveugler les gens, il a obscurci l'intelligence de beaucoup d'hommes et de femmes, pour qu'ils ne puissent pas, eh bien, voir le resplendissement glorieux de l'évangile de Jésus-Christ. Pour qu'ils ne puissent pas réaliser que la vie ne se trouve que dans une personne. Que le salut ne se trouve que dans une personne. Que la délivrance, et ce, dans tous les domaines de la vie d'un homme, ne se trouve que dans une personne. Et que cette personne-là, c'est Jésus de Nazareth. Pour que les gens ne puissent pas se tourner vers le Seigneur, eh bien, l'enfer travaille à un rythme infernal. L'enfer est à l'œuvre partout, mes amis. Les portes de l'enfer sont grandement ouvertes pour permettre aux forces du mal, aux forces des ténèbres, d'accomplir sa sale besogne, accomplir son œuvre funeste, son œuvre de destruction de la race humaine. Ce monde dans lequel nous vivons, nos sociétés, quelles qu'elles soient, ont donc besoin de voir, mes amis, une démonstration de la puissance de Jésus. Une démonstration qui montre au monde que Jésus est le même encore aujourd'hui. Que le Seigneur de la Bible, celui que les apôtres ont prêché, celui qui a été annoncé à travers tous les âges, jusqu'à aujourd'hui, un peu partout dans le monde, celui-là est véritablement le même aujourd'hui. Ce n'est pas à partir simplement des discours, voyez-vous, avec toutes les fleurs de la rhétorique, à partir de l'éloquence, à partir d'un certain savoir théologique ou même biblique, que nous pourrions amener les gens à réaliser, à voir que Jésus est vivant, mais c'est lorsque Jésus, eh bien, leur démontre sa puissance. Alléluia. Et Jésus voudrait le faire par nous et au travers de nous. C'est pourquoi je l'ai dit, je me permets de revenir encore ce soir. Il est donc du devoir pour notre Église la Borne. Il est donc du devoir de tout enfant de Dieu de pouvoir avoir sa propre preuve de la puissance, de la gloire et de la majesté de Jésus-Christ dans sa vie et dans notre Église. Il faut que les gens voient qu'à la Borne, il y a un Dieu vivant. Non seulement parce que nous en parlons, non seulement parce que nous avons un zèle extraordinaire, nous sommes passionnés pour ce Dieu-là, mais aussi et surtout parce qu'il voit ce Dieu-là à l'œuvre dans nos vies, parmi nous et autour de nous. Il faut des preuves vivantes. Et ces preuves-là, mes amis, nous ne pouvons pas les fabriquer. Nous ne pouvons pas les contrefaire. Dans ce domaine-là, la contrefaçon n'existe pas. Voyez-vous? Nous ne pouvons pas faire appel au feu étranger, car le feu étranger, même s'il communique une certaine chaleur, finit toujours par provoquer la mort. Le seul feu, mes amis, qui apporte la vie, le seul feu qui doit descendre sur notre autel, c'est celui qui vient d'en haut. Gloire au Seigneur. Et ce feu-là, mes amis, ne vient pas tout simplement parce que nous le voulons. Seigneur, envoie le feu. Seigneur, je voudrais être embrasé. Seigneur, je voudrais que tu allumes dans ma vie une flamme extraordinaire. Non. Quelle que soit notre bonne volonté, eh bien, ce n'est pas ça qui obligerait Dieu à agir. Il faut que nous créions des conditions en nous. Alléluia. Il faut que nous créions des conditions qui permettent à ces dieux-là d'envoyer le feu de l'esprit. Et la condition cardinale, la condition primordiale, la condition principale, c'est que nous puissions restaurer, c'est que nous puissions rétablir, alléluia, c'est que nous puissions dresser son autel. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que notre voyage, eh bien, a commencé au Mont Carmel. Et là, au Mont Carmel, nous avons été à la rencontre d'un homme. Un homme qui s'est tenu seul dans la solitude avec son Dieu. Seul face à toute une multitude de faux prophètes. De gens imbus d'eux-mêmes, qui étaient convaincus que leur religion était la meilleure religion. Que la religion des Baals était la seule qui valait la peine de suivre. Ils étaient nombreux, voyez-vous, c'est pourquoi il faut vous méfier de la majorité. Ce n'est pas parce que tout le monde va là-bas que forcément la vérité y est. Voyez? Et dans la plupart des cas, beaucoup d'entre nous se comportent comme des moutons de Panurge. Qui suivent le mouvement. On nous indique que l'ange Gabriel est à ma tête. Eh bien, on y va. Alors que le Seigneur nous a mis en garde. Quand bien même vous direz qu'il est là, n'y allez pas. Comment y aller parce qu'il est dans sa parole? Alléluia. Gloire au Seigneur. Au mont Carmel, un homme s'est tenu face à tous ces prophètes, prophètes de malheur, des gens qui étaient là pour répandre la suie de ténèbres sur la population d'Israël, mais aussi face à un peuple qui était dans la confusion, un peuple qui claudiquait, qui clochait, tantôt à gauche, tantôt à droite, qui était ballotté par toutes sortes de vents, des doctrines démoniaques, voyez-vous, comme des roseaux, incapables de résister à toutes ces tempêtes, voyez. C'était donc à un moment critique de l'histoire d'Israël. Il fallait que la réponse vienne de quelque part. Dieu s'est mis debout. Il a commencé à chercher l'homme, l'homme qui allait être l'outil pour l'embrasement de son peuple. Et cet homme, comme j'ai déjà eu à le souligner, il ne l'a pas trouvé dans une institution biblique, quoique l'institution biblique ait sa place. Il ne l'a pas trouvé quelque part à Jérusalem, parmi les sacrificateurs, ces gens, comme on a vu l'image, vous vous rappelez, de ces sacrificateurs qui offraient sur l'autel, de gens avec une barbe tout à fait spéciale, habillés d'une certaine manière, des habits de pompe et d'apparat. Dieu n'a pas été là-bas. Il a cherché, je cherche un homme. Un homme qui se tienne devant moi en faveur de ce peuple d'Israël. Jusqu'à ce qu'il fasse le tour d'Israël et qu'il aille dans un petit village de rien du tout, en traversant le Jourdain, dans cette région qu'on appelle la Transjordanie, en Galade, l'actuelle Jordanie, et là il a trouvé un homme, Eliaou, Élie, le Tishbite, un petit village, un petit bourg. C'est cet homme-là qui va apporter, mes amis, le réveil en Israël. C'est cet homme-là qui va sonner la trompette de la repentance. C'est cet homme qui va amener Israël à retrouver ce qu'il avait perdu, à réaliser qu'il s'était égaré. Et cet homme-là, nous le trouvons sur le mont Carmel, sur les hauteurs du Carmel. Et là, il dresse l'autel avec une foi audacieuse. Il n'est pas impressionné par la majorité qui est là-bas. Il n'est pas impressionné par tous ces rites auxquels s'adonnaient les prophètes de Baal. Puisqu'ils ont dansé, ils se sont tremoussés, voyez-vous, ils se sont tortillés, ils se sont agités, ils ont parlé dans leur langue de démoniaque. Rien n'a bougé. Le ciel est resté fermé. Rien n'a bougé. Au point où l'homme de Dieu, avec un humour prophétique, leur a dit, mais crie encore fort. Peut-être Baal se repose. Il a tellement travaillé qu'il a fini par se fatiguer. Alors il faut le secouer comme on secoue le cocotier. Ils ont secoué le cocotier, il n'y avait rien au cocotier. Rien. Ils ont fait appel à d'autres rituels d'incision. Ils se sont taillés le corps, le sang coulait. Rien ne s'est passé jusqu'à ce que l'homme de Dieu se tienne devant Dieu et fasse une prière qui avait pour centre la personne et la gloire du Seigneur. Et cette prière, il l'a faite alors que l'autel avait été restauré. Et c'est là, alors qu'il avait été restauré, alors qu'il y avait sur l'autel un sacrifice, le ciel a répondu. Alléluia. Le feu est descendu. Mes amis, Dieu a répandu son feu. Et résultat, conséquence immédiate de ce feu-là, qui venait d'embraser le sacrifice que Dieu venait d'agréer, la conséquence immédiate, c'est que d'abord, les prophètes de Baal ont été confondus. Ils ont réalisé la nullité et la vanité de leur Dieu Baal. D'ailleurs, en hébreu, quand les Hébreux appelaient Baal, ceux qui étaient attachés encore à Dieu, à Adonai, ils utilisaient un féminin de mépris, voyez, la Baal, normalement, pour dire que c'est le néant, c'est la vanité. Et là, ils ont réalisé qu'effectivement, au-delà du sens qu'on donnait à ce nom-là, il était véritablement un dieu de et du néant, un Dieu de mensonges. Et puis le peuple lui-même, ce peuple rebelle, ce peuple qui avait été complètement obnubilé par ces faux enseignements, par cette spiritualité d'inspiration satano-diabolo-démoniaque, ce peuple, tout d'un coup, tombe le visage par terre. Leur langue se délie. Et ils confessent, ils proclament, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, le seul Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous reconnaissons que c'est lui et lui. C'est qui a amené ce peuple rebelle. C'est qui a amené ce peuple confus. Ce peuple indécis. Ce qui a amené ce peuple dont l'intelligence avait été obscurcie par toutes ces pratiques de Baal, d'Astarté et autres, ce qui a amené ce peuple à plier ce genou et à confesser la vérité, eh bien, c'est la descente du feu. Le feu de Dieu, alléluia. L'enfer a été défié. Mes amis, le monde nous regarde pour voir si Jésus est vraiment au milieu de nous. Si vraiment notre théologie est conforme à la réalité. Car dans la plupart des cas, nous avons enseigné aux gens Jésus et ceci. Jésus peut cela, mais notre propre vie étant aux antipodes de ce que Jésus est véritablement. Car ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous proclamons par la bouche qui touche, mais c'est plutôt ce que nous vivons. Ce que nous sommes parle plus que ce que nous disons, alléluia. Gloire au Seigneur. Dans l'Écriture, le feu est le symbole de la présence et du pouvoir de Dieu parmi son peuple. À chaque fois qu'il y a eu attestation de Dieu, à chaque fois que Dieu a agréé un homme, une offrande, à chaque fois le feu est descendu. Alléluia. C'est ainsi que l'Église elle-même, cette Église qui reste et demeure la seule entreprise de Dieu qu'il bâtit sur terre, cette Église elle-même est née dans le feu. Alléluia. Puisqu'elle est née dans le feu, elle ne peut pas prétendre avancer sans le feu. Elle ne peut pas prétendre conquérir de nouveaux territoires sans le feu. Alors, sa raison d'être, sa vocation, sa nature, tout cela est intimement lié au feu d'en haut. Donc, en d'autres mots, l'Église doit constamment être embrasée par le feu du Saint-Esprit. Voyez-vous, mes amis, ce n'est pas quelque chose de facultatif, ce n'est pas une option. En disant, oui, mais bon, moi, j'opte pour un tout petit peu de chaleur, je suis allergique au feu. L'autre qui dit, bon, dès lors que je brûle un tout petit peu, cela suffirait. Non, pas du tout. C'est dans notre nature d'être embrasé par le feu. C'est dans la mesure où nous allons brûler véritablement de Dieu, de son feu, du feu du Saint-Esprit, qu'alors, mes amis, le monde pourra voir. C'est alors que la langue de ceux qui vivent avec nous, de ces incrédules orgueilleux, de ces athées arrogants, leur langue se déliera. Et ils confesseront que véritablement, qu'assurément, Jésus est bien le Messie. Alléluia. Le feu. Sans le feu de Dieu, l'Église est une pauvre chose malade. C'est comme un véhicule, quelle que soit sa beauté, dont le moteur serait en panne, et dans le réservoir duquel il n'y aurait aucune goutte de carburant. Un tel véhicule serait bon pour le musée. Pour un musée, oui ou non? Ça sert à quoi d'avoir une très très belle voiture qui brille? Vous frottez ça chaque matin. Voyez? Vous prenez les enjoliveurs à nickel et tout ça, vous poncez formidable. Vous regardez au loin, ça brille. Et quand le soleil de Kinshasa, eh bien, se lève, tout brille. Au risque de vous éblouir. Alors, ça sert à quoi d'avoir un véhicule qui vous éblouit, s'il doit rester là-bas et qu'il faille vous-même pour vous déplacer, faire 5 kilomètres pour aller trouver un motard? Oui, oui, c'est comment encore? Oui, oui, enfin, voilà. Eh bien, et quand tu arrives là-bas, tu n'es pas le seul, tu attends, vous vous disputez, quelquefois avec ton beau costume. Quand tu arrives au travail, tu as transpiré comme un porc. Ça sert à quoi alors d'avoir un véhicule comme ça? Dites-moi, ça servira à quelque chose? Un véhicule est fait pour rouler, pour faciliter le déplacement. C'est un moyen de transport. Il en est de même. Lorsque l'Église n'est pas embrasée par le feu, mes amis, elle devient un corps malade, un corps anémique, un corps chloroformé, un corps plongé dans une sorte de léthargie et de torpeur mortifère. Passez-moi l'expression. Voilà. Qui ne fait rien. Vous bougez. L'Église ressemble à quelqu'un qui serait dans un état de coma. Voyez-vous, incapable de manger par lui-même, intubé de partout. Voilà l'image. Et quand vous avez quelqu'un qui est là couché, même si c'était un homme fort, quand vous le voyez sur son lit de malade, intubé, des appareils qui l'entourent, vous le regardez, vous dites, voilà, c'est malheureux. Même si c'était l'homme le plus puissant. Je me souviens, j'avais regardé un documentaire sur Joseph Staline. Malheureusement, il portait le même prénom que moi. Staline, un des grands criminels du XXe siècle, à l'époque de l'Union soviétique. Il a tué, il a envoyé des gens dans des goulags. Vous voyez, il a été à la base de beaucoup, beaucoup de pogroms, où on a tué les gens, on a brûlé les gens. Un vrai dictateur, un bout d'homme comme ça. Je ne sais pas s'il avait la même taille. Mais il était petit. Mais très autoritaire et autoritariste. Un despote. Avec un pouvoir diabolique. Quand il est mort, j'avais suivi, quand il est mort, son corps était étalé. Les médecins, d'ailleurs on avait soupçonné des médecins juifs, que ce sont eux qui l'avaient tué. Vous savez, les juifs, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est à cause des juifs. Il y a une crise financière, c'est à cause des juifs. Bref, le gars a dit, son corps était là, les gens avaient peur de l'approcher. Même de le toucher, de peur qu'à un moment il se réveille. Parce que s'il s'est réveillé, ben, c'est la mort, votre mort qui s'en suffit. Un homme comme ça, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa puissance, son pouvoir, quelle que soit l'aura qui a entouré sa personne, lorsqu'il se retrouve sur un lit de malade, eh bien là, lui-même réalise toute sa fragilité. Il réalise la vanité d'avoir été sur un piédestal pour donner l'impression au monde qu'on était au-dessus d'eux. Personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Nous sommes tous des fourmis. Voilà. Certains vont plus vite que d'autres, etc. Même si vous pensez que vous avez des titres, vous êtes malheureux. Si vous pensez qu'à cause de vos titres, vous acquérez une valeur supplémentaire, une sorte de plus-value aux yeux de Dieu. Pas du tout. Dieu, quand il nous regarde, il ne voit pas les cadres d'un côté, les ouvriers, les bangambas, les mandailles. Non. Quand il nous regarde, il ne voit que deux groupes de personnes, deux catégories de personnes. La première se trouve sur une voie large, plongée dans les ténèbres, où ils font tout ce qu'ils veulent. On peut partir avec la femme de son voisin, c'est pas un problème. On peut voler, c'est pas un problème. On peut mentir, c'est pas un problème. C'est parce qu'il y a les ténèbres, oui ou non. On peut remorquer n'importe qui dans une aventure, pas de problème. On peut adorer qui on veut. On s'adore soi-même, on adore sa partenaire ou son partenaire, on adore des rats, on adore des lézards, c'est dommage, c'est triste. Oui, il y en a qui adorent des vaches, alors que nous on en mange. C'est formidable. Il y en a qui adorent les singes, hein. Alors qu'ici chez nous, certaines populations de singes sont menacées. Alors, si les singes étaient Dieu, c'est un Dieu malheureux. Parce que là, il reçoit les honneurs, alors qu'au Congo, on les traque. Et il finit dans des casseroles. Ou sur du charbon de bois. Vous voyez? Bien grillé, là. Donc, vous voyez, l'Église, quand elle n'est pas embrasée par le feu de Dieu, elle devient un corps malade. Voyez-vous? Un corps plongé dans un état de coma. Et qui est incapable, tout en ayant la vie, incapables de bouger, incapables de combattre. Mais lorsque le feu est là, alors toute la différence prend place. Alléluia. Sans le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, l'Église demeure sans force sur le champ de bataille. Et nous sommes dans un combat, mes amis. C'est pourquoi la Bible nous dit, au reste, frères, je pourrais ajouter sœurs aussi, fortifiez-vous par sa force toute, parce que vous êtes dans un combat. Le Seigneur vous a donné toute une panoplie spirituelle, toute une armure. Mais croyez-moi, la force pour pouvoir utiliser les armes que le Seigneur a mises à notre disposition, la dextérité, l'habileté, l'intelligence, la capacité à manier ces armes, aussi bien les armes offensives que défensives, cette capacité nous vient de Dieu et nous l'avons lorsque le feu brûle constamment en nous. Alors, Église du Seigneur, il est temps que nous montions au Carmel. Il est temps que nous puissions aller dans les hauteurs du Carmel pour que nous bâtissions l'autel comme Élie. Alors Dieu enverra son feu. Et lorsque nous nous mettrons à brûler de son feu, quelque chose se passera. Alléluia. Lorsque nous nous mettrons à brûler de son feu, mes amis, le monde verra que Jésus est véritablement vivant. Et Jésus accomplira des merveilles qui amèneront les athées, les incrédules, les incroyants à confesser qu'assurément Jésus est le Fils de Dieu. Il est plus qu'un homme. Il est plus qu'un révolutionnaire qui apparut en son temps. Il est plus qu'un chef religieux, plus qu'un rabbi ou un rabbin. Montons Carmel. Et aujourd'hui nous prierons. Aujourd'hui pour que le feu nous soit donné dans nos vies. Alléluia. Ensuite, nous sommes descendus du mont Carmel. Nous sommes allés rejoindre Abraham en route vers le mont Morija ou Moria, n'est-ce pas? Et là, avec celui qu'il avait de plus cher, à savoir Isaac, son fils, l'unique, celui qu'il aimait, en prenant son fils et en se dirigeant vers le mont Morija, c'est sa propre vie qu'il tenait dans ses mains pour aller sacrifier cela sur l'autel. Il est monté par obéissance. Il est monté chaque pas qu'il faisait de son côté, eh bien, était un pas qui entraînait la mort à lui-même. Parce que ça le rapprochait chaque jour de quoi? Ou chaque instant de la mort. N'est-ce pas? Chaque instant, mes amis, la montée, l'escalade de cette montagne de Moria approchait Abraham de la mort de lui-même. Gloire au Seigneur. C'était un acte d'obéissance, un acte de foi, parce qu'il croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter son fils. Mais il n'a pas regardé à tout cela, il a regardé à l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Et c'est donc dans les larmes du cœur brisé, mes amis, qu'il montait vers le sommet du mont Morija. Et sur l'autre versant de la même montagne, alors que lui montait, s'approchant chaque instant de sa propre mort, le Seigneur montait sur l'autre versant avec le bélier. Alléluia. Et quand il est arrivé, quand il a construit l'autel, là quelque chose s'est passé. Une voix s'est fait entendre du ciel, lui disant, Abraham, je vois que tu m'aimes parce que tu as fait cela. Alléluia. Là, mes amis, Abraham a expérimenté un autre aspect du Dieu d'Israël. Non seulement celui qui envoie le feu pour faire la différence parmi les incrédules, pour amener les gens à croire en lui, mais il a expérimenté une autre vérité, c'est que le Dieu d'Israël est celui qui honore, qui donne une récompense à tout celui qui le cherche de tout son cœur. En d'autres mots, il est celui qui pourvoit aux besoins. Adonai Yireh, le Seigneur qui voit et qui pourvoit. Gloire à Dieu. Cela n'a pas été une expression qu'il a apprise par un chantre de son temps qui aurait composé un chant dans lequel on trouvait Adonai Jireh. Le Seigneur pourvoit, ok. Ou il n'a pas étudié ça dans une école biblique, hein. Sur le banc de l'école, où finalement son professeur de théologie systématique ou autre, lui dit, voilà, l'autre Dieu là, il se manifeste comme étant le Dieu qui pourvoit. Ah, formidable. Ah, mais ça me rappelle un chant. Adonai, j'irai. Voyez? Non. Cette expression, cette révélation, il l'a vécu au sommet du mont Morija. C'est au terme d'un parcours mu par la foi. C'est au terme d'un parcours, mes amis, qui n'avait qu'un seul objectif, de plaire à Dieu et à Dieu seul, que finalement Dieu va se révéler comme étant celui qui pourvoit. Ce n'est pas une expression, c'est une révélation. C'est une expérience qu'il a faite, oui ou non. Frères et sœurs, le moment arrive où nous devons escalader le mont Morija pour y construire l'autel. Car au mont Morija, eh bien, quels que soient nos besoins, plus nous montrons avec le désir de dresser le reste, notre autel, plus lui aussi montera de l'autre côté. Alléluia. Et quand nous aurons dressé l'autel, quand nous aurons livré sur l'autel notre propre vie, alors quelque chose se passera. Quand nous utiliserons cette expression, Adonai iré, ou Yahvé j'irai, eh bien, ça ne sera pas un slogan, quelque chose de sloganesque, pas du tout, mais ça sera toute une expérience, une confession, parce que nous avons vécu. Alléluia. Donc derrière cette expression, il y a donc toute une expérience qu'Abraham avait vécue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, et avant de prier, nous allons continuer notre parcours. Nous ne sommes qu'au troisième jour, n'est-ce pas? Nous avons escaladé le mont avant Carmel. Hein. Soyez des carmélites, mais alors des vrais carmélites. Hein. Vous connaissez cet ordre, les carmélites, non? Voilà. Donc, les sœurs, je ne vous demande pas d'opter pour un célibat quelconque. Hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le catholicisme, il y a plusieurs ordres religieux. Hein. Oui, oui ou non? Parce que certains me regardent comme s'ils n'ont jamais entendu parler des carmélites. C'est un ordre religieux de sœurs qu'on appelle les carmélites. Pas carmérites. Mais carmé. Voilà. Et puis nous sommes partis au mont Morija. Mais nous continuons. Aujourd'hui, nous allons rejoindre Jacob, qui lui aussi a fait l'expérience de l'autel. Et puis, en passant, nous jetterons un coup d'œil à notre ami Moïse, qui est toujours là, puisque c'est lui qui nous a laissé tous ces témoignages, non? Comment voulez-vous que nous poursuivions notre pèlerinage des différentes montagnes dans le cadre de dresser notre autel sans passer et nous adresser un peu devant ce monument qu'est Moïse et lui faire un petit coucou, puisque nous n'allons pas nous attarder sur lui. Nous sommes rapidement dans Genèse chapitre 35. À partir du premier verset, avec Jacob et derrière et autour de son autel, Dieu va se révéler comme étant un guerrier redoutable, comme celui qui nous protège au jour du malheur, comme celui qui nous délivre au jour de la détresse, mais aussi comme El Shaddai, ce qu'on a traduit par Dieu Tout-Puissant. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus. Dieu dit à Jacob, nous sommes dans Genèse, chapitre 35, verset 1er. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite-y. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu étais en fuite devant ton frère, lorsque le problème tournait mal pour toi, lorsque tu avais l'impression que le monde entier était contre toi, lorsque ta propre famille cherchait à te tuer, ce Dieu-là t'était apparu et t'avait délivré. Pour ce Dieu-là, va et dresse un autel. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, verset 2, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains ainsi que leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem ou Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela cet endroit El Bethel, c'est-à-dire Dieu de Bethel. Bethel étant, dans Bethel, il y a Beth maison, El Dieu, si vous voulez, le Dieu de la maison de Dieu. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il était en fuite devant son frère. Nous arrivons au verset 9. Dieu a apparu encore à Jacob après son arrivée de Padan Aram et il le bénit. Dieu dit, écoutez ça, ton nom est Jacob, c'est-à-dire roublard, voleur, usurpateur, c'est ça. Ton nom est Jacob. Mais on ne te donnera plus, mais on ne t'appellera plus ce nom de Jacob ou du nom de Jacob. Ton nom sera, il lutte, Dieu lutte pour lui, ou prince avec Dieu, peu importe, celui qui a victoire avec Dieu. Tu ne seras plus le roublard, tu ne seras plus l'usurpateur, celui qui vole ce qui appartient aux autres, n'est-ce pas? Celui qui a toujours une idée derrière, pour usurper à l'autre ce qui lui appartient et qui ne le revient pas. Mais désormais, tu t'appelleras Israël. Et le verset 11, Dieu lui dit, « Je suis El Shaddai. » Ce qu'on a traduit dans nos versions, « Par Dieu Tout-Puissant. » « Sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront des terrains. Le pays que je donnais à Abraham et à Isaac, je te le donnerai. » Alléluia. Ce qu'il avait promis à Abraham, ce qu'il avait promis à Isaac, eh bien, devient aussi son héritage. Et il entre dans le même héritage. Et ta descendance après toi, je donnerai ce pays. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rencontrons Jacob. Lui aussi, à un moment, à un tournant de sa vie, où le Seigneur lui apparaît. Avant ça, sa famille est passée par des moments très, très difficiles. Sa fille Dina avait été violée par le gens de la maison. Enfin bref, les frères de Dina, eh bien, se sont énervés. Ils sont allés tuer des gens. Ça a créé un foutoir incroyable, un remue-ménage dans la région, etc. Finalement, dans toute cette confusion, dans ces règlements des comptes, dans ce milieu où il n'y avait que la haine, la jalousie, et les gens cherchaient à se venger par le sang, etc., Dieu parle. Parle à son serviteur, lui dit, le moment arrive où tu dois partir, où tu dois monter à Bethel, et là tu vas me construire un autel, alléluia. Et nous voyons que Jacob obéit, Jacob part, Jacob construit l'autel. L'autel au Dieu qu'il avait délivré, alors que le danger planait sur sa vie, alors que son propre frère, avec... De gens de sa maison cherchaient à le tuer, à se venger. Pour ce que Jacob, lui, avait fait plusieurs années auparavant, c'est-à-dire lui avoir usurpé le droit d'aînesse, ce Dieu-là l'avait délivré d'une manière ou d'une autre. Mes amis, de différents dangers. Dans sa détresse, ce Dieu était présent. Alléluia. Dans son besoin, ce Dieu-là était la réponse. Et voilà que ce Dieu lui demande de dresser... d'établir, de lui construire, de bâtir un autel. Gloire au Seigneur. Et à cause de cette obéissance, à cause de la construction de cet autel, Dieu va se révéler à lui. Alléluia. Il va se révéler comme étant le Dieu Tout-Puissant. Ce que nous chantons El Shaddai. Je disais dans nos versions, ou pratiquement jusque-là, mais depuis quelque temps, il y a de recherches par les biblistes de tous bords, ceux qui travaillent la science biblique, qui étudient les langues, etc., sont arrivés à la conclusion que le fait même de traduire El Shaddai par Dieu Tout-Puissant, eh bien, ça ne reflète pas la compréhension que les Hébreux avaient lorsqu'ils utilisaient cette expression El Shaddai. Certains ont traduit Dieu Tout-Suffisant. Voyez-vous, je reviendrai là-dessus pour parler de ça, peut-être dans un autre séminaire. Mais ce El Shaddai, eh bien, ça n'a pas été une expression que Jacob a glanée dans une institution, dans une école biblique. Ce n'est pas quelque chose qu'il a entendu par un chant en disant, quoi, El Shaddai? Ça veut dire quoi? Ah, Dieu Tout-Puissant, ok. El Shaddai. On va chanter. Mais ça a été une révélation. Et cette révélation, il l'a reçue après avoir bâti l'autel. Alléluia. Cette révélation, mes amis, a été la réponse de son acte d'obéissance. Il a construit cet autel comme un lieu de mémoire pour se rappeler, se souvenir de la bienveillance de ce Dieu qui s'était souvenu de lui alors qu'il passait par de moments difficiles, mes amis. Il était donc important qu'il dresse cet autel. Et en dressant cet autel, il a reçu une révélation du Dieu comme étant celui qui défend sa cause, celui qui s'occupe de ses ennemis. Et nous venons de le lire. Pour construire cet autel, il a demandé aux gens de sa maison de se débarrasser des faux dieux, de se débarrasser de toutes ces pratiques qui n'avaient rien à voir avec le Dieu qui lui était apparu, le Dieu qu'avaient servi ses ancêtres Abraham, Isaac, de se purifier, d'ôter du milieu d'eux tout ce qui pouvait compromettre l'intervention de Dieu. Tout ce qui pouvait, mes amis, faire écran à la manifestation de Dieu parmi eux et pour eux. C'est ainsi que ces gens se sont débarrassés de tout ce petit Dieu pour pouvoir se consacrer uniquement sur Elohim, sur le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Il y a eu un travail, et un travail, mes amis, qui a consisté à se débarrasser de tout ce qui n'avait aucun lien avec ce Dieu-là. Notamment les choses qui jusque-là faisaient l'objet d'un certain culte, ce qu'on appelait de Dieu. Voyez? C'est-à-dire, toutes ces choses, quelle que soit leur nature, ça pouvait être des amulettes, des totems, ça pouvait être n'importe quoi, tout ce qui prenait la place de Dieu, tout cela devait être rejeté. Et n'avoir qu'une pensée pour le Dieu de Jacob. Ils ont fait cela avant d'aller bâtir l'autel. Mon frère et ma sœur, nous allons prier ce soir pour cela. Chacun devra regarder en sa propre vie pour voir les choses, peut-être en périphérie de sa vie, qui sont de véritables petits autels sur lesquels on sacrifie à toutes sortes de divinités, à des faux dieux. On sacrifie au moi. Le moi peut être assis sur ton propre autel pour être mis en évidence, ce que nous appelons trône. Le moi étant assis sur le trône, en réalité, il doit quitter. Et ce qu'on a appelé trône, parce que le trône invoque toujours l'idée de noblesse, oui ou non? Oui ou non? Le trône invoque toujours l'idée de magnificence, l'idée de gloriole, etc. Mais ici, nous parlons d'autel. Le moi doit quitter l'autel qui lui a été fait, qui le met en évidence. Et pour cela, chacun de nous devra faire une sorte d'examen personnel, une sorte d'introspection, pour voir qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie, mon frère, ma sœur. Ça, c'est quelque chose dont tu dois te débarrasser absolument. Tu ne peux pas bâtir l'autel de Dieu sur de tels fondements. L'autel de Dieu ne peut pas avoir pour sous-bassement ces petits autels, cette idolâtrie, c'est toutes ces pensées négatives qui monopolisent ton intelligence, ces pratiques honteuses dont tu sais, dont tu es au courant, mais en face desquelles tu es désarmé. Tu te retrouves en train de faire des choses tout en sachant que ces choses sont mauvaises. Ça veut dire que tu es prise en tenaille. Ce soir, tu peux emporter cela au pied de la croix. Alléluia. Car ça sert à rien de se précipiter. dans la reconstruction ou à la reconstruction de l'autel pour que cet autel ait pour sous-bassement toutes ses idoles. Pas du tout, mes amis. Dieu est saint. Il nous veut tout entier. Il aimerait être le fondement de cet autel. Alléluia. Alors, il faut d'abord déblayer le terrain. Voyez-vous? Il faut l'assainir. Voyez-vous? Il faut enlever les pierres mauvaises. Il faut enlever, mes amis, tout ce qui pourrait constituer un obstacle pour bâtir. Vous savez, lorsque vous voulez bâtir une maison, vous n'allez pas laisser le terrain avec toutes ses aspérités, oui ou non? Vous voyez? Vous devez, quoi? Aplanir, enlever, arracher des arbres, etc. Et c'est seulement lorsque le terrain vient aplani, enlever tous les cailloux que vous allez vous mettre à faire des fondations. Mais si vous faites une fondation, par exemple, comme ça, sur le flanc d'une montagne, et puis l'autre fondation dans la vallée, comment voulez-vous construire comme ça? Il faut d'abord dégager, il faut que la route soit... Alléluia. Alors on pourra poser le fondement. Mais alors un fondement sûr. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous devons nous débarrasser. C'est le Dieu redoutable. El Shaddai. Lorsque l'autel a été dressé, lorsque Jacob a vécu, a marché dans l'obéissance, lorsqu'il s'est tenu devant cet autel, lorsque tout s'est passé comme Dieu le lui avait demandé, la Bible nous dit que la terreur de Dieu s'est emparée de villes environnantes. Il n'a pas eu à aller inquiéter, à aller dire à ses adversaires, vous voyez si vous jouez, mon Dieu va s'occuper de vous. Non. En s'occupant de Dieu, Dieu s'est occupé de ses adversaires. Alléluia. En s'occupant de Dieu, mes amis, il a laissé tout le problème entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur a provoqué une terreur parmi toutes ces villes. Il a manifesté sa gloire. Personne ne pouvait bouger pour suivre son serviteur. Parce que, plus qu'un guerrier redoutable, c'était son étendard. Et là, nous allons rejoindre notre ami Moïse dans Exode 17. Rapidement, nous sommes à Réphidim. Le peuple est en route vers la terre promise. Et voilà qu'ils arrivent à Réphidim. Et dans cette région, ils sont confrontés à des ennemis, à des adversaires, à savoir les Amalécites. Ils viennent, Exode 17, ils viennent pour combattre le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Ils viennent pour empêcher le peuple de Dieu d'aller vers l'accomplissement de la promesse. Et là, Moïse, conduit par le Seigneur, va se retirer sur la montagne, sur une colline. Et là, il va se mettre à genoux. Il va se mettre à prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit, tant que les mains de Moïse étaient levées, Josué, qui était dans la vallée et qui conduisait la bataille, remportait la victoire. Et quand les mains de Moïse, sous le coup de la fatigue, eh bien, se baissaient ou s'abaissaient, c'était le contraire. Ce sont les adversaires qui prenaient le dessus. Jusqu'à ce que Hur et Aaron comprennent qu'il était temps qu'ils viennent soutenir l'homme de Dieu dans ce combat. Alléluia. Et les mains étant restées élevées vers le Seigneur, eh bien, la victoire a été totale et entière. Après cette victoire, Dieu dit à Moïse, verset 14, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Et verset 15, Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel, mon étendard, ou Adonai Nissi, Éternel Nissi, Yahvé Nissi, Éternel mon. Qu'est-ce que c'est un étendard? Un étendard, c'est une enseigne de guerre, un drapeau de guerre. À l'époque, dans l'Antiquité, à travers l'histoire, au Moyen-Âge, un peu partout, quand les armées allaient pour combattre, eh bien, les armées avaient leurs bannières, leurs étendards, n'est-ce pas? Sur lesquels on pouvait trouver les armoiries du roi, les emblèmes du pays ou du royaume. Vous voyez? Et c'était surtout le drapeau de troupes notamment à cheval. Le troupe qui était à cheval, eh bien, vous avez déjà vu tous ces films sur les Romains, hein? Ils avaient ces étendards. Ils allaient en guerre avec leur étendard, alléluia. Et là, Moïse dit, il appelle cet autel, « Seigneur, tu nous as donné la victoire. Tu as été notre... » Donc, en réalité, dans la vallée, eh bien, c'est l'étendard du Seigneur qui était brandi. Alléluia. Oui, l'étendard, le drapeau de guerre, porté par les chevaliers. Et que nous dit Apocalypse chapitre 19? Dans cette vision extraordinaire, l'apôtre Paul voit le ciel s'ouvrir. Et il voit un cheval blanc qui est monté par quelqu'un de mystérieux. Quelqu'un que la Bible nomme, appelle fidèle et véritable. Alléluia. Eh bien, cet homme monté sur ce cheval blanc a les yeux comme les flammes de feu. Il a plusieurs diadèmes sur sa tête. Alléluia. Il tient dans sa main une épée à double tranchant. Il porte un nom que personne ne connaît si ce n'est lui. Et la Bible d'ajouter, les armées du ciel marchent derrière lui. Oh, alléluia. Le cheval blanc, monté, mes amis, par le capitaine de l'armée du ciel. Et toute l'armée du ciel est derrière. Et ce cavalier, sur ce cheval blanc, va de victoire en victoire. Et la Bible nous dit, dans sa bouche, il y a une épée tranchante. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, voilà notre véritable étendard. C'est le cheval blanc de l'Apocalypse qui gagne toujours. Voulons-nous que les armées du ciel soient avec nous? N'allons pas les chercher en consultant les anges. N'allons pas les chercher en consultant, mes amis, les archanges. La Bible nous dit, les armées de cieux, habillées, mes amis, revêtues de fin lin, blanc et pur, suivent le cheval blanc. Suivent le cheval blanc. Toutes les armées du ciel derrière, qui? Celui qui s'appelle véritable, roi des rois, seigneur des seigneurs. Quand lui est notre étendard, il n'y a rien qui puisse nous résister. Moïse a vécu cela avant. Mes amis, il ne pouvait pas certes voir. C'est plus tard que Jean recevra cette vision du cheval blanc qui va de victoire en victoire, qui juge les nations avec une paix de justice, une paix de vérité. Et Amalek a été battu. Et le peuple a continué son voyage à travers le désert. Mes amis, le Seigneur est appelé à être notre étendard. Mais nous devons construire l'autel où Dieu se révèle comme étant Yahvé Nissi. Quand nous le construisons, il devient notre étendard. Alors il n'y a personne. Quelquefois, tu n'as même pas besoin de prendre autorité sur tes adversaires. Dans certains combats, dès qu'ils verront son étendard, dès qu'ils verront la bannière, tous ses adversaires se mettront en fuite. Et quand tu arriveras, tu ne trouveras que des cadavres. Oh, alléluia. Quand tu arriveras, le terrain sera déjà déblayé. Quand tu arriveras, tout aura déjà été battu. Car avec lui, c'est plus que la victoire. Avec lui, c'est le triomphe total, complet, entier et parfait. Et notre étendard, c'est la croix du Christ. Et Jésus marche encore aujourd'hui. De gloire en gloire. Oh, puissions-nous tout faire ce soir, d'abord dans nos vies, construire l'autel pour que ce Dieu-là se manifeste en nous comme étant notre étendard, notre bannière, où que nous soyons, s'il est vraiment notre étendard, il n'y a personne qui nous résistera. Il n'y a personne qui entrera en contestation avec nous. Il n'y a aucun démon qui pourra tenir debout. Il n'y a aucune puissance démoniaque qui pourra nous nuire. Nous marcherons parce que lui, notre étendard, sera devant nous. Lui, le cheval blanc qui écrase tout sur son passage. Alors que les chevaux de l'enfer viendront mes amis, avec des démons sur ses chevaux, les démons avec leurs lances, avec leurs javelots, avec leurs flèches, ils ne pourront rien, car notre étendard est véritablement une bannière indestructible. C'est un bouclier impénétrable. Non seulement un bouclier qui arrête tout, mais aussi celui, le guerrier qui remporte tout. Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui pour donner l'occasion à chacun de nous de regarder à sa propre vie et de dire où suis-je? Est-ce que mon cœur est vraiment un lieu où je peux bâtir l'autel de Dieu sur des fondements solides? Est-ce que mon cœur est prêt? Ou alors il y a encore des choses dans ma vie? Il y a peut-être des gens qui sont venus inviter. Mais même avant, il y a quelque temps d'ici, tu n'as pas hésité à consulter quelqu'un pour avoir la chance. Tu n'as pas hésité à consulter quelqu'un pour qu'il te donne le pouvoir dont tu as besoin. Tu n'as pas hésité, mon frère, ma sœur, et toi qui es là, aller chercher le secours en dehors du Christ. Alors ce soir, le Seigneur t'appelle. C'est peut-être une chaînette qui a été travaillée. Nous sommes prêts à prendre autorité là-dessus. C'est peut-être de boucles d'oreilles pour que la chance soit avec toi, afin que tous les hommes aient de regard sur toi. Ce soir, ce n'est pas ça qui t'apportera la chance. Tu as besoin de rayonner de la lumière du Christ. Ce soir, apporte toutes ces choses. Nous allons le détruire. Alléluia. Je voudrais que chacun de nous s'incline dans la prière. Je voudrais demander à chacun de nous de commencer à invoquer le nom du Seigneur, mais d'abord de s'examiner. Je vais aller de manière systématique, d'appel en appel, et nous allons prier pour ces gens-là. Alléluia. Mon frère, ma sœur, où en es-tu avec Dieu? Tu es peut-être concerné par ce que je viens de dire. Tu cherches la réponse par tous les moyens. Parce que tu es conscient que la malédiction s'acharne contre toi. Parce que tu as l'impression que le ciel est fermé au-dessus de toi. Et dans cette recherche, on t'a donné des histoires en te faisant croire que cela t'apporterait la chance ou la victoire. Et peut-être que tu as ça ce soir. Pendant que nous avons nos têtes baissées, je te demande simplement de les apporter. Nous allons prier pour toi. Alléluia. N'hésitez pas que chacun regarde à lui-même, à soi-même. Qui occupe la première place dans ta vie? Est-ce un homme pour qui tu ne vis? Tu ne peux rien faire. C'est cet homme qui occupe toute la place. Et tu es même consciente toi-même que cet homme est devenu une idole pour toi. Comment veux-tu construire l'autel de Dieu dans un contexte pareil? Tu dois d'abord renverser cet autel-là. Alors tu peux te lever de là où tu es. Et nous allons prier pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui. Quel autel as-tu bâti dans ta vie? Tout ce qui ne sert pas à la gloire de Dieu, mes amis. Alors nous voulons renverser ces autels. Lève-toi. C'est peut-être la sexualité. Tu es dans une relation affective irrégulière. Tu essaies de justifier cela d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir, le Seigneur voudrait que tu arrêtes. Il voudrait te donner la force de couper ce lien. Tu peux te mettre debout. Et nous allons prier pour toi. Alléluia. Merci pour les personnes qui se lèvent. Merci pour les seuls. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, mais nous sommes là pour vous aider, pour vous amener au pied de la croix, afin que là vous receviez la délivrance et que vous ayez l'occasion à partir d'aujourd'hui de bâtir votre autel. Merci pour ceux qui se lèvent. Vous êtes constamment visités par des pensées charnelles, des pensées qui vous empêchent de vous concentrer sur le Seigneur, des pensées de mal, de vol, de malhonnêteté, de violence envers les autres, de pensées de destruction, même vis-à-vis de toi-même. Tu veux te détruire parce que tu réalises qu'il n'a pas de valeur. Lève-toi, mon frère, ma sœur. C'est aujourd'hui le jour de son salut, le jour de ta délivrance. Oh, merci pour ceux qui s'élèvent. Alléluia. Oh, merci. Le Seigneur passe dans le rang. Le Dieu qui est notre étendard. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, eh bien vous voudrez restaurer votre vie. Alors levez-vous, alléluia, ceux qui se sentent concernés, merci. Dieu est là pour délivrer, Dieu est là pour bénir, Dieu est là pour, mes amis, accomplir un travail. Alléluia, gloire au Seigneur. Je voudrais demander aux pasteurs qui sont là de se mettre debout. Pour ceux qui sont en règle avec le Seigneur. Ceux qui marchent avec le Seigneur parmi les pasteurs. Alors je vais demander aux pasteurs, à trois pasteurs qui aillent se poster là derrière rapidement. Allez-y vite et vous regardez de ce côté. Je demandais à deux pasteurs ici en face. Deux autres allaient jusque derrière là. Gloire à Dieu. Deux autres ici derrière. Et de là, mes amis, nous voulons invoquer le nom du Seigneur. Nous voulons que le Seigneur travaille aujourd'hui. Nous voulons voir des vies brisées par la puissance de la croix dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons louer le Seigneur, mais nous allons invoquer son nom. Vous qui vous êtes levés, confessez votre péché, en même temps invoquez le sang de Jésus. En même temps, dites Seigneur, je dépose mon idole à tes pieds. Je dépose ma relation impure à tes pieds. Je dépose mes pensées mauvaises à tes pieds. Et je reçois la guérison. Je reçois la délivrance. Prions tous ensemble. Les pasteurs, levez vos mains en direction de l'assemblée. Et mettons-nous à prier. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu poses ta main. Tu passes dans les rangs. Seigneur, 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 tu passes dans les rangs. Oh Dieu! Seigneur! Oh Dieu! Donne le pardon. Tu passes dans les rangs et tu délivres. Tu délivres de l'impureté.